Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut, je suis ravi de vous retrouver et je vous souhaite bien sûr une très très bonne année avec un invité bien bien spécial et surtout l'excellent Arnaud Bordelais pour m'aider à animer cette émission. Salut Arnaud.
Salut Raph et bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de m'accueillir en ce début d'année, tous mes voeux évidemment pour 2022, le meilleur et rien que le meilleur. Ça commence avec Poulain Rafut, hein, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large et en travers, celui que vous pouvez écouter dans votre salle de bain, sur votre vélo, dans votre voiture, dans le métro, bref. Partout où vous le souhaitez. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raph Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raph, je te laisse nous présenter notre invité du jour, un invité que tu connais bien.
Oui Arnaud, on a tous dans nos contacts et surtout dans nos souvenirs ces mecs qui nous marquent dans notre cher rugby. Des mecs qui attachent et qui accrochent, les indéboulonnables de l'amitié, toujours au soutien, sur et en dehors du terrain. Les fidèles parmi les fidèles. Ceux qui, en un quart de seconde et un fou rire au téléphone, peuvent te faire traverser la France pour des retrouvailles et une bringue efficace en plein milieu de semaine de boulot. Enfin, d'un autre côté, je parle de boulot, mais j'en ai jamais vraiment eu. Bref, ceux qui savent, qui sentent et qui sont là. Je vous mets au défi de ne pas en trouver un dans vos répertoires. Perso, je pourrais vous citer toutes celles et tous ceux qui, grâce au rugby, m'ont fait devenir ce que je suis et m'ont permis de grandir et d'affronter la vie. Il y a les Luc, les Pierre, les Salim, les Eugénie, les Norbert, les Rodolphe, les Toffer, les Nani. Et je n'aurais pas à cette place. Et d'ailleurs, Arnaud risque de me couper et de me dire que c'est encore trop long. Donc, au milieu de cette liste infinie, il y a Jérôme Filleul, 10 000 ans, presque 20 ans d'amitié. Biberonné au rugby, enfant de la balle ovale, tout n'a pas été rose pour la belette. Et pourtant, il a l'un des plus beaux palmarès du rugby français et une belle reconversion. Il faut dire qu'il n'a pas dormi et a su anticiper l'après, on va en parler. Formé à Agen, passé à Toulouse, puis au Stade français, il s'expatriera quelques saisons au Racing avant de finir sur un titre en 2015 avec le Stade français. 5 boucliers, 5 clubs et 17 ans de carrière plus tard. Le voilà, bientôt 43 ans, père de 2 garçons, Léon et Oscar, que j'embrasse au passage, et gérant de 2 enseignes à Bordeaux, la belle saison et au bureau. Fils et petit-fils de rugbyman, il a plusieurs fois porté le maillot des Babas, dont le grand-père était l'un des créateurs. Je pourrais vous écrire un livre sur l'animal, tellement j'ai de belles anecdotes sur lui et sur nous, mais comme on le dit toujours dans le rugby, tout ce qui est dans le rugby reste dans le rugby. Je préfère tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Bienvenue à toi, Mila, bienvenue Jérôme Filleul dans Poulain Rafut. Salut Jérôme, ciao.
Salut Raphaël, merci de m'inviter dans cette magnifique émission, en tout cas que je suis attentivement, tout particulièrement. Bonjour Arnaud, et je vous souhaite plein de bonheur pour cette nouvelle année, avec plein de sérénité et de belles choses à venir, je l'espère, en tout cas.
Allez, on l'espère tous, évidemment. Jérôme, bonjour. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Jérôme, depuis quelques années, tu as un petit peu disparu des radars médiatiques du milieu rugbystique. Et puis, la semaine dernière, ton nom est réapparu au cœur d'un sujet qui touche Proval, le syndicat des joueurs de rugby professionnels. Pour faire court, tu étais membre du comité directeur depuis 2018 et tu as décidé de démissionner de ton poste de membres du comité directeur. D'autres ont pris la même décision que toi. On parle ici de Rabah Slimani, pilier international de l'ASM, de Fanny Horta, capitaine de l'équipe de France féminine A7 et médaillé d'argent aux JO de Tokyo avec cette belle équipe de France, de Laurent Sampéré, l'entraîneur du Stade français, ou encore Arthur Coville, ancien capitaine des champions du monde des moins de 20 ans en 2018. C'est pourquoi aujourd'hui, Jérôme, on vient vers toi pour évoquer évidemment ce sujet-là, mais d'autres sujets un peu plus tard dans l'émission. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer les raisons de ton choix, Jérôme? Pourquoi cette démission alors que les élections ne sont que l'année prochaine?
Pourquoi? Parce que suite justement à la demande d'un élu du comité directeur au mois de mai, il y avait déjà certains problèmes RH dans l'enceinte de Proval. Donc, on a fait une réunion en tant que tous les élus du comité. Et suite à cette réunion, je me suis aperçu et j'ai constaté de nombreux dégâts humains dans la structure et du coup que je ne peux cautionner et qui ne font pas partie de mes valeurs aujourd'hui pour un syndicat qui doit protéger les joueurs et doit également protéger ses salariés. Et donc, du coup, j'ai décidé de démissionner.
Vous avez le sentiment, Jérôme, de ne plus être en adéquation avec la mission qui est celle de Proval, d'accompagner les joueurs, d'apporter notamment un accompagnement humain tant avec les joueurs qu'avec les salariés?
Alors après, avec les joueurs, je pense que c'est assez différent, l'accompagnement. Mais en tout cas, en tant qu'élu, dans la structure de Proval, les salariés, effectivement, il y a eu de gros problèmes. Et étant que chef d'entreprise, on a le statut de protéger ses salariés, et ce n'était pas le cas dans la structure de Proval. Donc, j'en ai alerté les élus et je l'ai dit clairement que j'ai démissionné à cause de ça.
Est-ce qu'une explication a eu lieu avec le président Robbins Chalewachu ou pas, Jérôme?
On s'est eu brièvement, mais voilà, c'était plutôt en divergence, on va dire, et voilà.
Bon, on va parler justement maintenant des raisons pour lesquelles tu t'étais engagé, Jérôme, au sein de ce comité directeur de Proval. Est-ce que tu peux nous dire, justement, nous parler de ces raisons qui t'avaient poussé en 2018 à accepter cette proposition de rejoindre le comité directeur, toi qui étais retraité, je crois, depuis 2016, si je ne dis pas de bêtises?
Sinon, c'était plutôt une approche qui était plutôt louable, bienveillante et qui était plutôt bien. C'est Laurent Sampéré, à l'époque, qui m'avait consulté pour venir. Et je dis, écoutez, pourquoi pas, mais je n'aurais vraiment pas de temps à consacrer à vos réunions parce que, étant pris par mes affaires, moi, je venais de reprendre deux établissements de restaurants qui me prenaient énormément de temps. Donc, je leur ai dit clairement, et c'était des conditions, que je ne pouvais pas participer à leur réunion. Mais par contre, s'il y avait un sujet sur de reconversion, pour accompagner, pour aider ou conseiller un joueur ou une joueuse de savoir comment faire et comment anticiper son après-carrière dans l'entrepreneuriat ou pendant sa carrière, j'étais complètement ouvert et disponible à échanger. Voilà, donc c'était vraiment dans ces conditions-là que j'avais accepté cette mission. Mais je vous avouerai, depuis cet été, il y a eu trop de choses qui ont fait que je ne pouvais pas continuer cette mission au travers des problèmes humains et des dégâts sociaux dans la structure avec de nombreuses personnes qui sont parties, voire licenciées.
Justement, c'est quelque chose qui est quand même important à tes yeux, hein, visiblement la reconversion, et je crois qu'avec Raphaël, vous êtes en passe de monter une association. Est-ce que tous les deux, vous pouvez nous en dire plus? Parce que toi aussi, Raphaël, c'est quelque chose qui te tient à cœur, la reconversion. On sait que tu as connu, toi, personnellement aussi, des difficultés lors de ton après-carrière. Parlez-nous un peu de cette association.
Déjà, c'est pour ça que je voulais inviter Jérôme, parce que, tu vois, Proval, en fait, on entend très, très peu parler. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par Serge Chimon, par Mathieu Blin, quand il était comité directeur et président de Proval. Et c'est vrai que quand tu as des mecs comme Jérôme, en fait, maintenant, tu as les réseaux sociaux et on sait presque pas, en fait, que Jérôme fait partie de Proval. Et pourtant, c'est des figures qui sont hyper importantes aujourd'hui pour les joueurs actuels parce qu'ils le connaissent encore. Il y a Jérôme, il y a Lolo Sampéré. Il y en a plein, en fait, de mecs qui se sentent investis et on entend très peu parler, en fait, de Proval. Moi, j'ai décidé, en fait, et on va en parler de quand Christophe est décédé l'année dernière. En fait, moi, ce qui m'a vraiment fait chier, je l'avoue, c'est trois tweets, trois hommages, et des beaux hommages, hein, des beaux hommages. Moi, j'avais fait ce podcast qui, malheureusement, a fait des millions d'écoutes parce que, et je disais dans le podcast, voilà, les héros meurent jeunes et ça fait chier. Donc, on tweet 3 jours, 4 jours, 5 jours, et puis on passe à autre chose, the show must go on. Sauf que les problématiques d'après-carrière, que ce soit les problématiques professionnelles ou psychologiques, elles existent. Elles sont là. Et d'ailleurs, j'avais sollicité Proval il y a 6 mois et les mecs m'ont dit « En quoi on peut t'aider ?» Mais je dis « Mais j'ai pas besoin d'aide. Moi, ce que je veux, c'est justement de pouvoir vous accompagner et créer cette structure en parallèle de ce que vous proposez pour pouvoir accompagner psychologiquement les sportives et les sportives en fin de carrière sur ce qu'on appelle la petite mort. » Parce qu'on l'a tous traversé. Moi, j'ai été le premier à prendre la parole dans le monde du rugby. On m'a dit que j'avais 10 ans d'avance, que je voulais bouffer sur le dos du rugby et que je crachais dans la soupe. Un mec qui me dit ça, qui était directeur de chez Proval, que je ne citerai pas. Donc, te dire que derrière le mec, ça fait déjà 5 ans qu'il est directeur de Proval et qu'il vient me dire ça à moi, qui veut dire qu'en plus, je veux cracher dans la soupe alors qu'il n'a jamais lu mon bouquin, jamais vu une conférence alors que je proposais de la prévention déjà dans un premier temps, rien n'a été fait. Donc, j'ai décidé en fait de prendre le taureau par les cônes, de vulgairement poser mes couilles et puis de dire voilà, je vais créer une association avec des hommes et des femmes que je trouve compétents, qui ont mes valeurs. Donc j'ai proposé à Jérôme d'en être le président, j'ai proposé à
Miguel Fernandez.
Miguel, oui, qui est président aussi du syndicat Intervalle des agents aussi, qui connaît les problématiques des sportifs sur la précarrière, d'en être le secrétaire. J'ai aujourd'hui un psy, on a des coachs mentaux, on a des addictologues. Et aujourd'hui, on a créé cette structure-là qui est en train de sortir. Je n'ai pas encore le nom à vous donner. Je l'ai en tête et on l'a en tête avec Jérôme. Et Jérôme a accepté parce que lui aussi, je voulais aussi contrecarrer avec la complexité, mais aussi d'une réussite d'après-carrière. Et Jérôme a accepté en 5 minutes. Et par amitié, parce que je pense aussi qu'il a aussi ces valeurs-là. Donc voilà, on est en train de monter cette association et en vue de France 2023 et Paris 2024, surtout. Voilà.
Jérôme, RAF évoque le décès brutal de Christophe Dominici. Est-ce que ça a été un déclic aussi pour toi, cette disparition qui a quand même surpris beaucoup de monde?
Un déclic, non, mais ça a accéléré, oui, ce processus de la précarrière est toujours un choc psychologique pour un joueur qui passe une partie de son temps et de sa vie dans le haut niveau, avec les médias, la tête dans le guidon, et sans vraiment regarder au lendemain, à sa préparation d'après sportif. Et le départ de Christophe, effectivement, ça a décuplé cette volonté aussi de pouvoir faire attention aussi à certains joueurs, à certains sportifs. Et du coup, Raphaël est arrivé avec ce projet derrière qui tombe pas à pic, mais qui va dire, va dans le sens de faire attention à la reconversion post-carrière.
Et c'est vrai qu'en termes de Sur les problématiques, on a entendu beaucoup de sportifs, d'ailleurs, pendant les JO, prendre la parole sur l'aspect mental, sur l'approche mentale et sur cette après-carrière. On parle de Dominici, mais on peut parler aussi de Christophe Viol, de Xavier Cambre et d'autres personnes. Et on ne parle que du rugby qui ont franchi le pas, qui ne sont plus là aujourd'hui. Et derrière tout ça, c'est 70% en fait des sportifs et des sportives qui aujourd'hui font une dépression après-carrière. Donc, qui de mieux justement que des mecs qui l'ont connu, parce que moi, je l'ai connu, certes, et j'ai pris la parole, mais Jérôme aussi, psychologiquement, a eu une transition beaucoup plus courte, compliquée, au-delà du côté professionnel qu'il a assuré. Donc, on sait de quoi on parle. Donc, on a encore, et moi, par l'émission, j'ai encore cette petite notoriété qui me permet aussi d'aller voir les sportives et les sportifs. Il y a le bouquin derrière, ce témoignage de Domi, une vidéo qui a tourné. Tout ça fait qu'on va aller voir et faire de la prévention auprès des sportifs pour parler de ce sujet tabou qui est la précarrière et ensuite de proposer cet accompagnement en 3, 6, 9, 12 séances. Donc, j'arrête de vendre mon truc à ma sauce, mais comme c'est un sujet, moi, qui me tient vraiment à cœur et de le faire en plus en amitié avec Jérôme, c'est important de le mettre en place. C'est beaucoup de sportifs sont en train de prendre la parole.
Alors Jérôme, sans te mettre sur un piédestal, tu fais partie de cette génération de joueurs qui ont connu hein, les débuts de l'ère professionnelle. On ne va pas te vieillir, mais tes premiers matchs en pro avec le Stade Toulousain, c'est 96, si je ne dis pas de bêtises, donc peu de temps après le début du professionnalisme. Et très vite, tu as compris l'importance d'anticiper l'après-carrière. De 2008 à 2015, tu avais un restaurant sur Paris qui s'appelait Mila, hein, ça ne s'invente pas. C'est un bar tapas hein, pour ceux qui se souviennent, qui ont passé de drôles de soirées, situé dans le premier arrondissement de Paris. Et déjà, quand tu joues au Stade Toulousain, donc bien avant de venir découvrir le monde merveilleux de la capitale et du Stade français de Max Guazzini, tu avais en parallèle déjà une activité professionnelle. Raconte-nous un petit peu ce que tu faisais à l'époque lorsque tu jouais au Stade Toulousain. Et tu étais un tout jeune joueur pourtant.
Ouais, moi j'ai eu la chance de voir le démarrage du professionnalisme. Qui n'était pas encore complètement officiellement, mais après la mise en place et toute l'évolution qu'il y a eu depuis, on était aux prémices. Et effectivement, pas mal de joueurs et beaucoup de joueurs que j'ai côtoyés à mes tout débuts avaient deux activités, joueurs de rugby le matin et parfois l'après-midi quand il y avait deux entraînements, et se retrouvaient parfois entre deux entraînements à remettre le costume, le blazer et repartir bosser. Parce que c'était leur activité aussi plus réactif. Et parce que encore les salaires n'étaient pas encore assez nécessaires. Le début du professionnalisme arrivait et puis certains avaient déjà une activité avant de passer professionnel. Et du coup, bah, quand j'ai vu tous ces gens et ces joueurs dans les vestiaires se changer et partir bosser, et je me suis mis moi également à bosser et j'ai suivi mon ami Didier Lacroix qui lui avait une boîte de communication qui s'appelait À la Une. Et donc, du coup, je m'occupais de commercialiser, vendre les espaces publicitaires de la revue Prestige du Stade Toulousain. Donc, on partait ensemble en voiture après entraînement. Il m'avait filé un tréteau et une planche en bois. Et j'appelais les partenaires pour essayer de vendre mon espace publicitaire, mon encart. Et donc, c'était une belle école, une très belle école. Et c'est vrai que du coup, ça m'a suivi parce que durant toute ma carrière, j'ai toujours pensé à ce que je voulais faire après le rugby, que ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. J'ai vécu certains joueurs arrêtés par blessure ou indépendamment de leur volonté également. Et donc, je me suis dit, si un jour ça m'arrive, il va falloir que je me prépare et que je prépare mes arrières. Donc voilà, j'ai toujours eu ça en moi jusqu'à la fin de ma carrière.
Et on a toujours rigolé parce que tu sais, à la fin des matchs, tu as toujours les sponsors qui sont là. On a toujours rigolé avec Pierrot Rabadan, Jérôme qui allait chercher des cartes de visite. Et c'est le seul mec qui avait 10 classeurs. Normalement, tu as des classeurs DVD où tu as 200 DVD dedans. Et lui, il avait des cartes de visite, mais de partout, des blocs comme ça. Chez lui, il n'y avait pas de bibliothèque avec des bouquins, c'est des bibliothèques de cartes de visite. Et pourquoi je raconte ça? Parce qu'au-delà d'en rire, c'est qu'en fait, il faut utiliser ce réseau-là. Parce qu'il faut être assez intelligent. Moi, j'étais trop con, je prenais ma Crossfire et c'était direction le pouce au crime. Mais ce réseau-là, mais c'est pour ça que j'ai cette après-carrière, j'ai eu cette après-carrière et j'en ai tiré des leçons. Aujourd'hui, on en rigole. Mais le réseau, et on ne se rend pas compte du réseau des sponsors aussi autour qui peuvent aussi nous aider à faire du business pendant la carrière, moins maintenant parce que les salaires sont ce qu'ils sont. Mais à cette époque-là, c'était déjà d'anticiper et de réfléchir et de dire, bon, en fait, ouais, tu peux bosser avec un tel et un tel. Par contre, le coup des tréteaux et de la planche, ça, j'étais pas du tout au courant, mais là, tu vois. Ça
C'est
fait
magnifique quand même. C'est magnifique. Bon, en tout cas, visiblement, Jérôme menait plusieurs activités de front. T'as pas empêché de construire quand même un sacré palmarès. Hein, Raph l'a rappelé tout à l'heure avec 5 Brennus. Et pourtant, tu déclarais il n'y a pas très longtemps que tu aurais bien échangé un Brennus contre 10 sélections en équipe de France. C'est un crève-cœur, ça, de ne pas avoir pu tutoyer le niveau international. Jérôme, tu n'as jamais été très loin à une époque. Hein. J'ai souvenir, notamment quand tu étais sélectionné avec les Babas, tu n'étais pas très loin. On parlait souvent de toi et tu n'as jamais été appelé. C'est quoi? C'est un crève-cœur? C'est un souvenir douloureux? C'est un manque? C'est quoi?
Ouais, c'est un manque. Hein. C'est sûr que dans une carrière de joueur, il y a des rêves que vous voulez atteindre. Il y a effectivement toucher le bouclier de Brennus et porter le maillot de l'équipe de France. Quand je dis porter le maillot de l'équipe de France, c'est celui de la grande équipe de France. Même si j'ai eu la chance de porter les maillots de l'équipe de France jeune jusqu'à França, mais j'ai jamais eu alors, la chance ou pas la chance, hein, mais en tout cas, je n'ai pas pu porter ce maillot lors d'un tournoi ou d'une tournée. Effectivement, c'est un manque et que j'aurais bien aimé avoir. En tout cas, effectivement, quand je disais, c'est même difficile, hein, pour certains, c'est choquant de dire ouais, échanger un bouclier contre des sélections. C'est tellement difficile d'avoir un bouclier
Quand on
de
a cinq.
Brennus. Ouais, c'est ça, c'est que t'en as cinq surtout.
Oui. Voilà, mais bon, ils sont tous difficiles à avoir, donc vous les prenez quand même. Mais effectivement, ouais, c'est quand même un manque et un regret de ma carrière.
La différence parce que on était au port de l'équipe de France à peu près au même moment avec Jérôme. On fait
Vous
d'ailleurs
avez ce point commun là, effectivement.
un match Barbarians. Et à la différence de Jérôme, moi, j'avais pas cette filiation, et on va en parler justement de la filiation de ton père et de ton grand-père surtout. J'avais pas cette filiation. Puis, bon, j'étais pas non plus de la région. Hein, j'avais pas des poteaux de rugby dans mon jardin en Picardie. Hein, c'était des deux poteaux de 33 et puis voilà, au Cronenbourg, dans la Red Car. Mais Jérôme, lui, dans son jardin, par exemple, avait des poteaux et s'entraînait depuis tout petit. Donc ça doit être vraiment. Et je comprends le côté crève-cœur que moi je n'ai pas vécu de ne pas participer. En plus avec voilà, ton grand-père qui t'a fait aimer le rugby. Moi, je revois une photo où tu es dans ses bras dans un vestiaire. Enfin, c'est très, très fort. Donc, j'imagine quand même que, ouais, échanger un bouclier contre des sélections, je peux te comprendre, Mila. Je peux te comprendre parce que c'est. Après, il y a une génération aussi. Après, derrière, il y a les mecs qui enfin, étaient devant. Tu étais aussi. Il y a Galette qui était là. Et puis après, derrière, il y a eu d'autres joueurs. Mais quand même, ça aurait mérité, quand tu vois que tu as des gonzes qui, au mois de juin, font des tournées et que tu n'es jamais parti, voilà, je n'en dirai pas plus.
Justement, une petite question qui n'était pas prévue, mais puisque Raphaël l'évoque, est-ce que, Jérôme, le fait d'avoir eu un côté un petit peu instable, c'est-à-dire que tu as connu le Stade Toulousain, le Stade Français, le Racing, l'USAP, est-ce que ce truc-là t'a finalement desservi dans le cadre d'une carrière internationale?
Peut-être, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des moments où on a besoin de montrer des signaux un peu forts de stabilité sur certains postes, sur certains clubs, pour asseoir une légitimité ou une continuité logique de progression de carrière pour atteindre l'équipe de France. Et peut-être qu'il y a des moments de ma carrière, étant jeune, j'ai fait certains choix qui m'ont peut-être desservi sur le plan international, mais bon, après, aujourd'hui, on voit qu'il y a des joueurs quand même qui changent pas mal de clubs et qui ont des carrières internationales importantes hein, et intéressantes. Donc, ce n'est pas toujours le changement ou l'instabilité qui fait que vous n'êtes pas sélectionné. Voilà, donc aujourd'hui, j'en sais rien.
J'ai fait aucun regret.
Non, pas les choix de clubs que j'ai fait, je ne les regrette pas. Parce que,
même Perpignan, Jérôme?
Non, même Perpignan, même si ça pas, même si je suis resté qu'un an et que ça n'a pas été une saison attendue pour le président qui était d'Agrona et moi-même, bah, j'en ai retiré quand même des belles conclusions. Ça a été compliqué, mais je me suis nourri de ça pour rebondir derrière après. Donc, même si ça n'a pas été une saison ou une année positive, voilà, j'en ai, ça m'a fait une expérience pour la suite, en tout cas.
On parlait de filiation, c'est Raph qui a abordé le sujet tout à l'heure. Tout le monde ne le sait peut-être pas, hein, Jérôme, mais t'es le petit-fils de Guy Basquet, qui est quand même une figure historique hein, du rugby français, notamment à l'époque d'Albert Ferras. Tu dirais aujourd'hui que ça a été un avantage ou un inconvénient pour toi dans ta carrière? Je sais que c'est une immense fierté pour toi. Je me souviens d'une chronique que tu avais écrite dans Midi Olympique il y a quelques années où tu rêvais justement de pouvoir avoir cette cape pour faire plaisir à ton papy, entre guillemets. Voilà, je voulais savoir si quelque part, est-ce que ça t'a servi, est-ce que ça t'a desservi ou est-ce que tu t'es jamais vraiment posé la question finalement?
Au début, je ne me la posais pas. J'étais un peu insouciant de l'impact qu'a pouvait avoir mon grand-père dans le milieu. Et puis après coup, vous côtoyez certaines personnes haut placées à la Fédé. Et bon, je sais que mon grand-père était un homme avec beaucoup de caractère. Il a tranché énormément. C'était soit blanc ou soit noir. Ce n'était pas un homme très politique. Et effectivement, il a dû blesser certaines personnes. Et je ne sais pas si durant ma carrière, ça a pesé sur certaines décisions, mais peut-être ou pas, j'en sais rien, je ne le saurais jamais en tout cas, mais c'est, je ne sais pas si tout était positif dans mon sens, mais en tout cas, je ne regrette pas qu'il ait eu ce poids ou cette carrière à la Fédé et peut-être, j'en sais rien. Voilà.
Mais c'est lourd à porter ou pas, Jérôme? Parce qu'on dit toujours quand on est fils d'eux, on en voit aujourd'hui, il y en a beaucoup. Hein. Romain Tamac, je pense que parfois ça doit le bassiner quand même qu'on lui parle de la filiation. Damien Penaud, il y en a plein aujourd'hui, hein, des joueurs de rugby dont les papas ont déjà œuvré au plus haut niveau. Est-ce que ça a été lourd à porter?
Lourdement, non, parce que encore une fois, quand vous êtes jeune, vous faites pas trop attention à ce genre de choses, et après coup que vous réalisez davantage. Mais non, je prêtais pas trop attention. Ce qui me faisait marrer surtout, c'est de voir mon grand-père dans les tribunes du Stade Toulousain quand il était président d'Agen. Et moi, je portais le maillot du Stade Toulousain. Donc ça me faisait marrer, sachant la rivalité qu'il y avait entre le Sporting New Orleans et le Stade Toulousain. Donc,
à Noël, t'étais donc, privé de cadeau, du coup.
Ouais, non, ça va.
Non,
mais non, c'était. Oui, je sentais certaines pressions. Je sentais quand même l'importance et l'impact de mon grand-père au niveau du monde du rugby. Et c'est vrai que quand je croisais certaines personnes, parfois, ben, je voyais des regards un peu noirs quand on parlait de mon grand-père, parce qu'il n'a pas toujours été, on va dire, très.
Un homme de poigne.
Voilà, ça là. Et ça n'a pas toujours été facile pour certains. Et il y avait beaucoup aussi d'admiration pour d'autres. Voilà.
Un mot, Jérôme, parce que j'ai lu ça il n'y a pas très longtemps. J'ai appris qu'à la fin de ta carrière de joueur, la question s'était posée peut-être de devenir entraîneur. Or, aujourd'hui, tu es quand même sorti du circuit rugby et j'ai lu que Patrice Collazo, à l'époque, entraîneur du Stade Rochelais, t'avait plus ou moins sondé pour savoir si tu avais été susceptible de le rejoindre pour entraîner à ses côtés au Stade Rochelais. Vrai ou faux?
Ouais, c'est vrai. C'est juste après mon arrêt en 2015, durant l'été 2015, il m'a contacté et bon, j'étais très, très touché de son appel, mais je ne m'attendais pas du tout à repartir dans le milieu rugbystique et entraîner. Ça faisait quasiment 20 ans, plus de 20 ans que j'étais dans le milieu, à partir tous les week-ends. Je venais d'avoir deux garçons, donc j'avais envie de profiter d'eux, de profiter de ma famille et repartir là-dedans. D'un côté, ça m'excitait parce que c'est des projets excitants où on est picousé rugby, ça coule dans nos veines. J'ai décliné parce que c'était peut-être trop tôt pour moi. Et voilà, mais je sais qu'après, dans ce milieu-là, dès que vous déclinez, dès que vous décrochez, après, c'est plus compliqué de revenir. Mais je n'ai pas de regret de ne pas avoir accepté cette proposition-là. Je sais, voilà. Mais en tout cas, oui, effectivement, Patrice m'avait contacté pour venir m'occuper des trois quarts et d'analyser le jeu de trois quarts et des demi de mêlée.
Je te l'avais aussi proposé à Nice hein, quand j'étais coach. J'avais coaché à Nice pendant 6 mois, en fait, l'équipe de Nice, et j'avais proposé à Jérôme de venir. Plus sérieusement, Jay, tu suis encore le rugby ou pas? Tu regardes les matchs? Je sais que tes fils sont un peu accros au rugby, au surf. D'ailleurs, j'ai eu Léon au téléphone il y a deux semaines, ton fils, qui m'a dit que tu étais bien meilleur que toi au surf. Déjà, donc ça, j'étais ravi. Peut-être qu'il sera meilleur que toi au rugby, je lui souhaite.
Moi, j'ai eu Pierre Berbizier qui m'a dit que Pierre était un peu déçu de Jérôme Filleul sur un vélo. Hein. Il tapait d'aller plus vite. Puis on est dans les anecdotes.
Et donc, tu suis un peu ou pas du tout? Tu as décroché aussi par rapport au match et tout? Maintenant, tu habites à Biarritz, donc ouais, c'est sûr que tu serais. Je te vois plus en extérieur que face à ton plasma. Tu suis un peu, notamment à Agen, qui est quand même ton club formateur, qui a un peu explosé en vol ces 2 dernières années.
Non, je suis toujours hein, de loin, comme disait Arnaud, hein, je suis assez discret et je suis toujours l'actualité rugbystique, notamment les matchs. Je regarde avec mes enfants certains matchs. Je suis l'équipe de France aussi, les beaux exploits de l'équipe de France. Donc maintenant sur le canapé, devant mes écrans, mais je suis toujours passionné de voir ces matchs. Exactement.
Donc la question, c'est savoir, bon, tu as quand même fait une grande partie de ta carrière au Stade Français. Tu regardes plus Toulouse en ce moment ou le Stade Français avec tes fils? Ils sont plus fans de Toulouse ou du Stade Français? Sachant que Léon a connu le stade aussi. Oscar était un peu plus petit, mais Léon, je le revois encore.
Léon, il a connu le Racing. Il est né dans la période de Racing, donc ils suivent.
On va en parler.
Oui, ils vont. Non, ils suivent. Ils sont picousés. Ils aiment ça. Ils regardent le stade français, le stade toulousain, tous les clubs que j'ai côtoyés et bien sûr Agen, parce que bon, au stade de temps en temps. Mais voilà, donc on suit tous ces clubs-là avec beaucoup d'attention, et quand ils se déplacent, on va les voir à l'hôtel parce qu'on va retrouver les anciens joueurs qui sont devenus des entraîneurs maintenant.
Alors justement, dans ton parcours quand même, il y a quelque chose d'assez atypique, et vous avez ça en commun avec Traf, c'est que vous avez un grand écart qui est finalement pas si grand que ça, puisqu'il n'y a que le périph' en jambé. Vous avez porté tous les deux le maillot du Stade Français et du Racing, à la grande époque de l'antagonisme Guazzini-Lorenzetti. Moi, j'aimerais avoir votre... comment ça s'est passé? Comment ça s'est fait? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que vous êtes fâché avec un des deux présidents? Racontez-nous un peu, là, je serais curieux de savoir.
Alors moi, je sortais du théâtre, donc pas un casting à part Coca-Lite. Et donc, quand tu fais 100 bars, Coca-Lite, ça n'a pas de sens. J'ai failli faire bouffer le cul par un léopard en Afrique du Sud lors d'un tournage. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et je me souviens, je suis parti avec Jérôme, ben, pas loin d'ici maintenant. Je suis en Provence. On était chez mon oncle et ma tante à La Magle, à côté d'Erag, côté d'Avignon. Et puis, on s'est entraînés tous les deux et on était sur le terrain d'Erag. Et j'ai dit, ouais, je vais peut-être reprendre le rugby et au Racing. Et parce que j'avais croisé Bibi au Radou qui m'avait proposé de rencontrer Pierre Berbizier. Moi, cette année-là, je ne vais pas trop en parler parce que j'ai fait 8 déchirures et je n'ai pas fait un match de l'année. J'ai pris un billet et c'était une grande frustration parce que je voulais vraiment me prouver que je pouvais encore revenir et le corps ne voulait plus. Donc, mais Max ne m'en a pas voulu parce que j'avais déjà arrêté depuis 2 ans. J'ai connu Jackie Lorenzetti qui m'avait agréablement surpris parce que c'est, ouais, on peut le critiquer parce qu'il peut être un peu détaché de cette image qu'on se fait du rugby village et tout ça. Mais Le mec, quand même, a quand même construit une machine de guerre. Et on était aux prémices parce qu'on perd cette finale contre Mont-de-Marsan en 2007-2008. Et Jérôme, toi, tu arrives l'année d'après en Pro D2 pour finir sur un titre, enfin, pas finir, hein, de continuer, mais de gagner ce titre l'année d'après. Alors, je ne sais pas sur tes relations avec Max comment ça s'est passé, mais
quoi que ce soit. Raconte-nous, Jérôme, on veut savoir comment ça s'est passé.
Il a envoyé des petits pics de temps en
temps. Max a perdu un de ses bébés quand même.
Ouais. Bah, il l'a perdu plusieurs fois, Jérôme, quand même, parce qu'il a fait un tour Perpignan. Après, il est revenu, mais c'est le seul d'ailleurs.
Au fond de lui, il savait que... Oui, mais au fond de lui, il savait qu'on allait se retrouver. Donc, on est parti toujours en beau terme. Non, le Racing, pourquoi ? Parce que déjà, c'était un club lequel mon grand-père avait porté le maillot. Il avait joué au Racing pendant une année. Et ça a toujours été un club que j'aimais bien, que je suivais. Et puis, c'était une période de ma carrière à Paris... qui se passait plutôt bien. Il y a eu quelques changements d'entraîneur à Paris, et puis il y a eu l'arrivée de Pierre Berbizier au Racing, avec qui je m'entendais bien parce que c'était un ancien Agenais, et voilà, il y avait aussi un peu d'affect là-dedans, et j'ai tenté l'aventure, et pourtant le Racing était en Pro D2, en reconstruction, avec un projet de remonter rapidement. Et puis je me suis dit, allez, pourquoi pas me remettre un challenge, me remettre un peu en difficulté aussi, me rechallenger un peu. Et je suis parti au Racing pendant 3 ans. On a fait une remontée directe champion de France en 2009. Et puis on a fini en demi-finale la 3e année contre Montpellier. Donc c'était plutôt une très belle expérience. Donc, et puis après, je suis revenu au Stade français de la même manière. Pour finir ma carrière, pour filer un coup de main au stade, et qui a duré chaque année, je reproduis, je relance, je relance, je relance, et ça a fini pendant 4 ans, jusqu'en 2015. Voilà.
Et sans trahir de secret, tu pour en avoir discuté avec toi il y a quelques temps, tu avais tissé des liens amicaux presque avec le président Lorenzetti, pour qui tu as un grand respect.
Oui, parce que il a repris ce club vraiment... En bas de classement, au bord de la fédérale. Il a repris le club. Il a beaucoup investi de son argent, de son temps, de sa conviction. Et c'est quelqu'un, un bâtisseur, alors différent de Max, mais un bâtisseur qui savait où il allait. Et il a mené cette équipe et ce club maintenant en haut de l'Europe. Donc, moi, je dis bravo parce que c'était pas donné au départ. Et donc voilà, c'était une belle expérience, encore une fois.
Donc on ne te demande pas de choisir entre Lorenzetti et Guadini, on est bien d'accord.
Non.
C'est pas la même aventure, je pense que c'est pas le...
C'est deux hommes qui sont différents, avec des qualités différentes. Et voilà, mais... C'est vrai que moi, j'ai passé beaucoup plus de temps au Stade français. J'ai connu, moi, le Stade français de Max en pleine effervescence. Et c'est vrai qu'on a vécu des moments exceptionnels. Donc, c'est vrai que j'ai un attachement à Paris, au Stade français et à Max qui est plus prononcé.
Ouais, et puis, à un âge où tu avais 22, 23 ans, tu débarquais à Paris... On a découvert Paris ensemble, d'ailleurs, et puis on a gagné des titres aussi, enfin, avec une génération de mecs. On refait toujours dans cette nostalgie, mais c'était extraordinaire. Ça sortait complètement de l'ordinaire, et c'était, non, c'était très, très fort. Ouais.
Justement, pour conclure, messieurs, c'est vrai que vous êtes marqués et étiquetés tous les deux un petit peu avec le sang rose du Stade français. Le club est en pleine reconstruction et vit quand même des moments un peu difficiles. On sait que vous avez tous les deux des attaches très fortes encore en interne du club. Hein, Jérôme, il n'y a pas très longtemps, tu t'es été entraîné par Gonzalo Quesada. Raph, tu connais encore pas mal de joueurs, tu as longtemps côtoyé Christophe Moni, qui est le team manager. Quel regard, rapidement, tous les deux, vous portez sur cette reconstruction aujourd'hui qui tarde un peu à prendre forme quand même, hein.
Oui, qui tarde, mais après, c'est pas anormal, parce que le mal qui a été fait pendant presque 3 ans des Sud-Af. Aujourd'hui, ben, c'est la conséquence de cette, on va dire, de cette mauvaise gérance, mauvaise gestion, on va dire, du club. Et aujourd'hui, bon, ben, c'est compliqué de rebâtir. Et c'est ce que fait aujourd'hui Thomas Lombard, ce que fait aussi Gonzalo avec avec Julien et Laurent Sampéré. Donc oui, effectivement, c'est long. Il faut faire revenir les joueurs, il faut faire revenir du monde dans les tribunes. Il faut apporter sa patte sportive. Gonzalo, ça fait 2 ans qu'il est revenu. Donc voilà, reconstruire un club et une équipe en 2 ans, c'est jamais simple. Donc il faut du temps. Donc voilà, il faut qu'ils prennent, il faut leur laisser aussi le temps de se reconstruire, de repartir un peu à zéro.
Ouais, non, vous avez parlé de reconstruction, c'est exactement le mot quand on voit les ravages qui ont été faits avec des salaires aussi qui ont explosé. Tu le sais, Arnaud, hein, tu connais les problématiques du Stade français, de Thomas aussi, avec cette dynamique, comme l'a dit Jérôme, de devoir remplir le stade aussi, avec le Covid aussi derrière, au bord de la relégation, alors qu'ils s'annonçaient comme le Real Madrid il y a 4 ans quand même. Ça a été un peu foireux, le truc, quand même. Le mec, il est parti, il avait re-signé son contrat, il est parti avec 1 million d'euros. Donc, heureusement qu'il y a aussi Monsieur Wild aussi derrière, ces grands argentiers aussi qui mettent sur la table et au pot. Donc oui, il faut reconstruire, et reconstruire aussi avec des joueurs que tu n'es pas allé chercher. Donc, on pense à Gonzalo, à Julien et à Lolo Sampere. Donc oui, c'est une reconstruction, les valeurs sont toujours là, les résultats aussi, ils sont 8e les Gonzes, donc c'est plutôt chouette. Maintenant, l'avenir justement permette à Gonzalo aussi d'aller choisir ses joueurs, et puis de refidéliser des joueurs, de faire venir aussi des grands noms au Stade français. Je pense que ça ferait du bien aussi à la notoriété, mais c'est entre de bonnes mains, donc je suis pas inquiet. Ouais.
Ils sont 9e exactement, juste devant le Racing. Donc, un prochain duel parisien qui sera, puisque le Racing est 10e. Messieurs, c'est fini pour aujourd'hui, pour l'un Rafut. Merci beaucoup pour ces échanges. Raph, un petit mot pour conclure et donner rendez-vous la semaine prochaine, peut-être ?
Ouais, non, c'est avec Jay, comme je disais, 20 ans d'amitié, donc on aurait pu rentrer un petit peu dans les détails, mais on a tellement de très bons souvenirs qu'on va se les garder pour nous. Et comme je le disais en introduction… Tout le monde les a, ces mecs-là autour de soi, voilà, qu'on soit au début du bus ou à la fin du bus. Voilà, Jay, il est directement au fond du bus aussi, assis à côté de Domi, de Franck Combat et tout ça, donc je le revois encore. On avait une putain d'équipe, donc ravi de t'avoir eu, Mila, Jérôme, vraiment très content.
Merci et, Raphaël, suite, en tout cas.
La suite au prochain épisode. Putain, ça fait 10 ans que tu ne m'as pas appelé Raphaël, mais je prends.
Messieurs, merci beaucoup pour ce bon moment, pour ces échanges. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure, messieurs. D'ici là, bon vent, et on vous invite évidemment à aller déguster quelques bons petits plats en bord de Garonne du côté de la belle équipe, c'est ça, ou la belle époque? Non, la belle équipe.
La belle saison.
La belle saison, ou au bureau du côté de Vinave d'Ormont. Voilà, vous serez bien reçus chez Jérôme Filleul. Messieurs, allez, merci beaucoup. Et
merci,
on se retrouve
Arnaud.
La semaine prochaine pour Poudlard Affût.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.